Les trains suisses, c'est un peu comme notre chocolat ou nos montres. Ils contribuent à la bonne réputation de la Suisse dans le monde. Ils sont confortables, ponctuels, dit-on. Un peu chers, certes. Chers, mais que voulez-vous ? La qualité, ça se paye. Le mythe est-il en train de s'écrouler ? Ou du moins assiste-t-on à une érosion de la qualité des CFF ? La petite phrase d'Andreas Meyer, le patron des CFF, qui a jugé admissible dimanche de voyager jusqu'à 20 minutes debout, au même prix qu'une place assise, fait beaucoup réagir les usagers, les politiques aussi. Est-ce une maladresse isolée du patron des CFF ou le signe d'une détérioration plus profonde du niveau de la qualité des trains ? C'est le débat que nous vous proposons ce matin jusqu'à 8h30. Il tourne depuis hier soir déjà, il vous a alerté via notre application mobile. Il se débat sur les réseaux sociaux, c'est votre domaine de prédilection. Bonjour Magali Philippe.
Bonjour Nathalie.
Et on va le préciser d'emblée, les CFF ont refusé de participer à ce débat. Ils s'en remettent au canton. Ce sont eux, nous disent les CFF, qui commandent l'offre en trafic régional, donc la qualité, fréquence, etc., auprès des entreprises de transport. Alors on verra si les représentants des cantons souhaitent réagir en direct ce matin. Le numéro, c'est le 0800 23 33 33. En attendant, tout de même, le porte-parole des CFF a accepté de faire une petite déclaration, un statement, comme on dit, au micro de Patrick Lefort. Et cela constitue, Magali Philippe, votre bande-son du jour.
Avec tous les nouveaux trains que nous mettons en circulation, qui sont des trains climatisés avec 40% de places assises en plus, des trains avec accès de plein pied, écran d'information à la clientèle, on a au contraire beaucoup plus de confort à bord des trains CFF que c'était le cas il y a même 5 ans. Hein. Donc la qualité et le confort s'améliorent, l'entier de la flotte régionale a été renouvelé et maintenant on poursuit cette rénovation, ce renouvellement de la flotte avec les trains Régio Express et les trains grande ligne. Et là, la clientèle a beaucoup à y gagner. Mais ça ne résout pas, bien sûr, le problème des places aux heures de pointe, hein, où même si on allongeait les trains à l'infini, on aurait toujours des problèmes de places assises aux heures de pointe dans les trains régionaux.
Alors, il s'agit de la voix de Frédéric Reva, le porte-parole des CFF. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de confort à bord des trains CFF, explique-t-il. Un avis qui n'est pas du tout partagé par certains passagers qui grognent sur les réseaux sociaux et pour qui, oui, la qualité du service des CFF se dégrade. Je vous livre quelques-unes de leurs réactions recueillies sur Twitter. Des installations de plus en plus vieilles, des trains bondés, des prix abusifs. Mais bon, on n'a pas trop le choix, estime Sablier94. Quand je vois certaines bétaillères avec une échelle pour s'y husser en deuxième classe, ce n'est pas vraiment la joie, renchérit Gérard Schroeter. Et vivement Suisse Métro pour qu'il y ait une alternative au CFF. Voyager debout, non merci, je choisis un autre moyen de transport, conclut Carlo Guidetti.
Et vous, que pensez-vous de nos transports en train? 0800 23 33 33, c'est le numéro à composer pour participer à ce débat en direct à l'antenne. Daniel Mange est en ligne avec nous, secrétaire de la CITRAPVO, c'est la communauté d'intérêt des transports publics. Daniel Mange, peut-être d'abord un mot sur cette déclaration dans la presse dominicale d'Andreas Meyer. On peut considérer cela comme une maladresse ou c'est tout de même le signe d'une qualité qui se détermine? On le rappelle, donc, voyager debout, c'est admissible jusqu'à 20 minutes, au même prix qu'une place assise. Qu'en pensez-vous, Daniel Mange ?
Je suis partagé entre rire et stupéfaction. Rire, parce que cette nouvelle nous vient du Sonntagszeitung, le journal du dimanche, c'était donc le 1er avril.
Oui, ça prêtait à confusion. Certaines personnes ont cru un poisson avril.
L'autre point, c'est bien entendu la stupéfaction, parce qu'avec l'aménagement programmé de places debout, Andreas Meyer ne propose rien d'autre que le retour de la troisième classe, qui a été abandonnée au siècle dernier pour de très bonnes raisons. Donc là, c'est une chose qu'on ne peut pas admettre. Si on peut admettre de courts trajets debout, la planification du voyage debout, eh ben, c'est une troisième classe avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire en particulier un tarif nettement plus bas que celle de la deuxième ou de la première classe.
En revanche, ce que nous dit Frédéric Reva, le porte-parole des CFF, Daniel Mange, sur la qualité en général, le confort à bord des trains qui se serait amélioré les dernières années, vous en attestez ?
Oui, il est clair qu'il y a des améliorations sensibles, pas encore peut-être visibles, parce que tous ces trains ne sont pas encore entrés en fonction, ça va dire progressivement. Si effectivement la climatisation, les panneaux de signalisation sont un plus, j'aimerais rendre attentif les CFF qui négligent souvent les besoins tout à fait basiques des voyageurs. Je pense à des choses aussi simples, notamment dans les nouvelles rames Flirt, qui sont ces nouveaux trains régionaux qu'on voit assez souvent, en tout cas dans les régions romandes. Il n'y a pas assez de toilettes, un seul compartiment par véhicule. Les voyageurs près des portes sont frigorifiés parce qu'il n'y a plus de porte qui sépare l'entrée du véhicule des compartiments. Les voyageurs sont privés des rideaux antisolaires, donc peuvent être éblouis. On considère qu'ils sont assez résistants pour ça. Et puis, dernière chose, la première classe, c'est exactement la même chose que la deuxième classe, sauf que c'est mis première classe.
Et c'est plus cher.
L'espace est exactement le même. Donc, il y a manifestement ici des négligences aux dépens des voyageurs.
Et puis, on rappellera aussi que mi-mars, les CFF ont partiellement perdu devant le tribunal administratif fédéral. Ils devront faire modifier leur nouveau train duplex pour répondre aux exigences d'accès des handicapés. Ils songent, les CFF, à faire recours. Que pensez-vous de la qualité de nos trains? 0800 23 33 33. Julien nous a appelé. Julien, vous faites la différence entre les parcours courts et longs. En dessous de 20 minutes, vous êtes d'accord de voyager debout, Julien?
C'est difficile de dire que je suis d'accord. Je pense que là où je rejoins Monsieur Monge, c'est effectivement quand on parle de voyage debout, ça je crois que c'est absolument exclu, c'est effectivement le retour de la troisième classe. Par contre, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que nos CFF finalement ont hérité un peu de la mission ici en Suisse, de métro ou de RER, qui est dévolu à d'autres compagnies que la SNCF par exemple pour prendre la France. Mmh. Et donc de ce fait-là, des trajets pendulaires finalement extrêmement réduits se font des fois dans d'autres pays de manière debout. Donc pourquoi pas chez nous? Je pense que c'est aussi un bon moyen, peut-être, enfin un bon moyen. C'est un moyen de rentabiliser le mètre carré de wagon et de prendre plus de voyageurs, et donc de mieux rentabiliser les choses, et puis de lutter de cette façon-là contre la hausse continue du coût des billets.
Julien, vous faites la comparaison avec la France. Vous connaissez ce pays, vous avez voyagé en train en France. Je vous pose la question, est-ce que c'est le cas?
Oui, c'est le cas.
Voilà, parce qu'on fait souvent vraiment la comparaison, hein, et on finit par constater que les trains suisses, malgré ce qu'on constate aujourd'hui, restent de qualité supérieure. Cela, vous êtes d'accord?
Alors, tout à fait, très nettement. Je pense qu'en France, on peut avoir l'expérience un petit peu tronquée. Bon, j'ai pas voyagé énormément, c'était essentiellement des voyages sur des grandes lignes. Mais effectivement, on peut faire une distinction très nette entre ce qui serait du TGV pour les très grands voyages, qui présentent des standards quand même, on va dire, relativement acceptables. Et puis ensuite, effectivement, les TER ou les trains locaux, qui eux, effectivement, sont très différents des CFF. Par contre, au niveau des tarifs, je pense que on peut débattre du rapport coût-prestation, c'est-à-dire que la qualité est bien moindre, mais finalement, le but de départ de déplacer quelqu'un d'un point A à un point B est atteint avec un tarif beaucoup plus bas. Oui. Je crois me rappeler à l'époque, sauf erreur, qu'un Genève-Lausanne est à peu près le même prix qu'un Genève-Toulon. Donc, il y a quand même si le prix est plus cher, c'est clair qu'on s'attend aussi à une qualité de service qui serait bien supérieure aussi.
Oui, les tarifs des CFF ont augmenté en décembre dernier. Billet première classe a augmenté de 3%. L'abonnement général senior de plus 5%. Tarif un peu moins à la hausse. Et l'abonnement général, enfin j'ai plusieurs chiffres, mais on va pas tous les donner. Mais enfin, ils sont à la hausse ces tarifs. Restez avec nous Julien. J'aimerais prendre Daniel qui est en ligne avec nous, qui nous appelle de Chamblon. Daniel, vous êtes assez remonté, vous, contre les CFF. Vous avez un abonnement général depuis 10 ans et puis vous constatez toujours moins de place aux heures de pointe. Voyager debout, c'est pas quelque chose qui va vous ravir.
Oui, bonjour, mais tout à fait, c'est vrai que j'étais un peu déçu d'entendre qu'il faudra encore voyager debout, même je dirais d'un côté, c'est pas quelque chose de nouveau aux heures de pointe. J'ai bien aimé la phrase que disait mon monsieur juste avant, en disant qu'un Genève-Lausanne était bientôt le prix d'un Genève-Dion. Donc, on passe toujours en augmentation des prix. La qualité, ben, effectivement, on est content d'avoir un siège agréable, pour autant qu'il y en ait un. Je dirais surtout, les CFF, ce qu'ils devraient faire, c'est un avis personnel, déjà améliorer, sans vouloir améliorer de nouvelles prestations, déjà stabiliser, faire les choses correctement sur celles qu'ils ont actuellement. Ce serait déjà, je crois, une très bonne chose.
Merci Daniel. On va faire un tour du côté des réseaux sociaux.
Absolument. Alors il y a quelques défenseurs, on va les appeler comme ça, hein, des CFF. C'est une opinion qu'on a entendue il y a quelques minutes. On nous dit non, ce n'est pas un signe de dégradation. L'offre des CFF ne se dégrade pas. Le jour où on vivra une situation à l'italienne, je commencerai là, oui, à m'inquiéter, indique F. Peressinotto, qui nous précise que la loi dit que les CFF doivent transporter et non pas garantir une place assise. Tout système est perfectible, mais je pense qu'on qu'en Suisse, on est pas mal lotis. Vous devriez aller dans les pays limitrophes avant de trop râler, conseil Ludopé. Et des avis qu'appuie Sacha Clément, toujours sur Twitter. Pour ceux qui connaissent les trains de l'étranger, ils sauront apprécier le confort, même debout, et la ponctualité des CFF.
Et une petite réaction à nouveau sur notre application mobile, Magali.
Absolument, ça c'est plutôt du côté de l'insatisfaction à l'égard du service des CFF qui, le saviez-vous, a suscité le lancement d'une initiative fédérale intitulée Pro Service Public. Elle a été lancée par les magazines d'information et de défense des intérêts des consommateurs des trois régions linguistiques du pays. Et parmi ces magazines, il y a Bon à Savoir, dont Zeynep Erzan-Berdo est la rédactrice en chef.
Cette initiative soulève notamment le problème de l'érosion, certes lente hein, mais progressive, de la qualité des prestations des CFF, ceci avec la bénédiction du Conseil fédéral. Hein. J'en veux pour preuve l'évolution des termes utilisés dans les objectifs stratégiques que le Conseil fédéral fixe tous les 4 ans, au CFF notamment.
Voilà, un petit souci de micro. Donc la réaction de la rédactrice en chef de Bon à Savoir. Daniel Mange, cette initiative, vous y souscrivez, vous êtes prêt à la signer en faveur des services publics?
Je crois qu'elle est trop générale. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'elle concerne pas seulement les CFF, mais aussi les PTT. Moi, ce qui m'intéresse en tant que spécialiste du transport, notamment ferroviaire et de défense des usagers, c'est des mesures pratiques pour arriver à régler un certain nombre de points. Il y a effectivement quand même en moyenne une très grande satisfaction par rapport au service actuel, mais on peut améliorer les choses. Alors, je reviens à la troisième classe, donc la place debout. Je n'ai rien contre, à condition que le tarif soit juste, c'est-à-dire que cette place coûte moins cher que la deuxième ou la première classe, ce qui est totalement impossible maintenant. Mais on peut imaginer dans le futur, et je crois que le directeur des CFF avait évoqué lui-même ce système, c'est une carte à puce sans contact direct qui permet de comptabiliser directement le voyage que vous faites en train et qui peut tenir compte immédiatement de la place que vous occupez debout, s'il n'y a pas d'information, assis sur un siège de première ou deuxième classe, il y a une information qui est transmise par le matériel. Donc voilà la solution d'avenir, c'est le décomptage direct de la prestation réelle, quelle que soit la situation, debout, première ou deuxième classe.
Et Daniel Mange, quelle est la marge de manœuvre des CFF précisément sur ces décisions-là de comptabilisation, de définition du bon tarif aux bonnes personnes?
Alors, ils ne sont pas seuls. Ils font partie de l'Union des transports publics, l'UTP, qui regroupe toutes les compagnies de transport de Suisse, et dont les CFF constituent évidemment le gros morceau. Ils sont loin d'être seuls. Le système est compliqué parce qu'en fait, il y a deux types de systèmes tarifaires qui se déclinent. L'un, c'est ce qu'on appelle le service direct qu'on a toujours eu, c'est-à-dire qu'avec un seul billet, on peut aller de A à B, même si A et B sont très éloignés. Et puis le deuxième système, qui est plus récent, c'est le système des communautés tarifaires qui regroupe le trafic régional dans les différentes régions de la Suisse. Or, il y a 28 communautés tarifaires pour l'ensemble de la Suisse. Donc, il faut bien se d'accord qu'on doit mettre d'accord toutes les compagnies pour le service direct et les 28 communautés pour le service régional. Vous voyez que les décisions sont vraiment pas simples à prendre.
Julien, vous qui avez composé le 0800 23 33 33 pour débattre de la qualité de nos transports, est-ce que vous craignez que ces critères qu'on énonce, Daniel Mange en a listé pas mal, hein, pas assez de toilettes, le froid près des portes, pas de rideaux anti-solaire, des prix parfois pas adéquat. Est-ce que tout cela peut vous détourner vers le transport individuel, peut vous faire renoncer à prendre le train, par exemple?
Alors, je pense qu'effectivement, ça, c'est le cas aussi de manière générale, parce que finalement, c'est une contre-publicité. Quelle compagnie finalement privée se permettrait de vendre ce genre de prestations? Après, je pense que c'est des petits inconvénients qui peuvent être surmontables, dans le sens où, de nouveau, si on parle de trafic régional avec des distances extrêmement réduites, c'est clair que pour 5-10 minutes, on n'a pas forcément besoin d'un store solaire ou de WC sous la main. Je pense qu'il y a aussi un point qu'on n'a pas forcément abordé. On a beaucoup parlé d'érosion de la qualité, mais il y a également une hausse quand même qui est relativement spectaculaire. C'est quand même le nombre, je crois, de rames, de correspondances et de trains, bon, quand elles fonctionnent, mais qu'on a déployé, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, là où des fois on avait un train par heure, voire un train tous les 2 heures, des fois on en a pratiquement un toutes les 20 minutes. Genève-Lausanne, il y a pratiquement un train toutes les 10 minutes depuis Genève pour aller à Lausanne. Donc ça, c'est aussi une hausse peut-être assez spectaculaire dans les chiffres, dans les faits, mais qu'on constate pas forcément, puisque en tant qu'usager, on se concentre peut-être plus sur la qualité du siège, le service à bord de la rame, ou bien la température qu'il y fait, ou la manière dont on s'y tient.
Alors, les CFF ont transporté l'an dernier 977 000 passagers par jour. C'était un nouveau record, donc on peut critiquer la qualité, n'empêche qu'on continue à monter dans les trains. D'autres arguments sur les réseaux sociaux, Magali Philippe.
Ça va un peu dans ce sens, exactement, on cherche des explications à cette situation. Il ne faut pas confondre baisse de qualité avec surfréquentation du réseau de certaines zones, c'est ce qu'estime Franck Rême. Depuis les années que je pendule entre Sion et les PFL, explique le PDC valaisan Vincent Pellissier, je peux poser deux constats d'augmentation, prestations et voyageurs. Les problèmes constatés, retard, place, insécurité, viennent à mon sens du fait que les voyageurs ont augmenté plus vite que l'offre. Et pour le député vert vaudois Martial de Montmelin, être debout dans le train, c'est surtout le signe que nous n'investissons pas assez dans le rail. Et je vous propose, toujours dans le même sens, d'écouter Raphaël qui a utilisé notre application mobile Ligne Directe pour participer au débat.
Dans le sujet que vous proposez aujourd'hui, moi je vois deux problématiques bien distinctes. La première, c'est l'aménagement du territoire et le fait que les gens voyagent de plus en plus pour se rendre sur leur lieu de travail. Et la deuxième, c'est le statut des CFF en tant que régie fédérale. Ils ne jouent plus le rôle de service public, pourtant ils ne sont toujours pas soumis à la concurrence.
Daniel Mange, ils ne jouent plus le rôle du service public, les CFF. Bah tiens, ça revient justement à cette initiative dont on récolte les signatures. La rédactrice en chef de Bon à Savoir nous déposait une réaction. Est-ce qu'on peut soutenir cela, dire que ce rôle de service public n'est plus rempli?
Non, je ne dirais pas ça. Je crois que les CFF actuellement sont victimes de leur succès. Effectivement, la fréquentation a cru plus vite que les aménagements. Et je crois que le gros problème qui se discute aux chambres dès cet été, enfin ces jours-ci, même au Conseil des États, c'est justement le futur plan appelé FAIF pour financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire qui va, plan gigantesque, puisqu'il nous mène jusqu'à 2050 avec des investissements de l'ordre de 40 milliards pour façonner à la fois un nouveau système de financement du rail et un nouvel aménagement. Et c'est là où la CITRAP intervient assez vigoureusement. Quand on entend les projets de la fameuse et mythique troisième voie entre Lausanne et Genève qui va coûter très cher et qui finalement se résume à des bouts de troisième voie, voire éventuellement de quatrième voie, nous plaidons pour une vision tout à fait différente qui se rapproche, je dis bien se rapproche de celle de Suisse Métro qui vient d'être citée. C'est une ligne nouvelle, tout à fait nouvelle, entre Genève et Lausanne, dans la technologie traditionnelle, permettant aux trains classiques d'y passer, mais seulement aux trains sans arrêt entre Lausanne et Genève. En construisant une telle ligne, ce qui ne coûtera pas beaucoup plus cher, ou voire un prix équivalent à la troisième voie, on résoudra le problème de la capacité à court terme, et à long terme, on pourra se payer cadeau en plus, la grande vitesse.
Ça paraît merveilleux comme ça, Daniel Mange. Vous êtes secrétaire de la CITRAP, vos communautés d'intérêt des transports publics. Peut-être puisqu'on est sur ce chapitre de l'investissement et ce dossier politique, vous le dites, hein, ça se discute en ce moment et ce sera cet été certainement à l'agenda des sessions parlementaires. Daniel Mange, est-ce qu'on peut considérer que cette déclaration qui a fait beaucoup de bruit dimanche dans la presse dominicale d'Andreas Meyer, c'est peut-être un petit moyen de pression sur le politique pour qu'il s'active un petit peu et puis qu'ils mettent les sous nécessaires, l'investissement nécessaire dans le rail? Il y a un petit peu de chantage comme ça politique, vous croyez?
Alors écoutez, je ne connais pas de façon intime M. Meyer, mais je crois que c'est un homme assez courageux et assez provocateur. Donc je crois qu'il a mis le bâton dans la fourmilière. Et la preuve est, c'est que nous en discutons depuis une demi-heure avec des témoignages qui sont intéressants et qui sont finalement relativement constructifs. Je crois que pendant cette demi-heure, on a fait une liste de pas mal de points qui seraient des points de départ de résolution de problèmes et non pas simplement de constat de ce qui ne va pas.
Oui, effectivement, hein, on a entendu aussi des réactions positives, notamment quand on se lance dans la comparaison internationale sur les réseaux sociaux, Magali Philippe.
Et Bob Lafourdre rappelle tout de même que oui, la mobilité a un coût. On voudrait des trains vides, ponctuels, qui desservent chaque village toutes les demi-heures, si possible sans les payer. C'est ce qu'il écrit sur Twitter. Et puis vous évoquiez tout à l'heure des solutions. Alors on en a également sur les réseaux sociaux, des très techniques, peut-être les comprendrez-vous, Monsieur Mange. Optimisation des trains via leur système GSM perso. Il s'agit d'un système qui communique sur un réseau de type GSM système et qui permettrait de presque coller les trains les uns aux autres, donc permettrait d'en mettre plus. Voilà, c'est une proposition qui nous vient. On parle aussi d'actes volontaristes. Ce qu'on veut, ce sont ces actes volontaristes dans le territoire qui font son aménagement, à l'exemple du M2, du courage et des actes, demande-t-on sur les réseaux sociaux. Et puis, cette proposition qui existe déjà, décaler les horaires, c'est une responsabilité aussi des entreprises privées afin de décharger, on va dire, les trains. Les entreprises ont aussi un rôle à jouer, selon Christophe Gemmelin. Pourquoi tous commencer à 8 heures? Les PFL et l'UNIL ont joué le jeu en décalant les horaires, mais c'est vrai que le plus incitatif serait de baisser les prix aux heures creuses. Et c'est également un avis qui est relayé par Fred Alvar. Décalons même certains horaires de magasins, 10h, 20h, pas de télescopage ainsi de ses employés avec les employés de bureau dans les transports.
Alors, pas mal de réactions éclairées, en effet, sur les réseaux sociaux. Francine est en ligne avec nous. Francine, merci d'avoir composé notre numéro. Vous souhaitez que les CFF, en plus de la liste que nous avons déjà dressée, pensent un peu plus aux personnes âgées qui ne peuvent pas forcément rester debout?
Oui, c'est bien ça, madame, tout à fait. Les personnes âgées ne peuvent pas rester 20 minutes debout, souvent, et elles n'ont pas toujours la possibilité, les moyens de prendre une première place, et d'autre part, elles sont parfois obligées aussi de se déplacer aux heures de pointe. C'est comme il y a une pénurie de médecins maintenant dans certaines villes, il faut bien qu'elles aillent chez un médecin parfois dans une autre ville.
Oui, Daniel Mange, pour les personnes âgées, pour les personnes qui ne peuvent pas effectivement rester debout, quand on sait aussi que l'accès pour les handicapés est difficile dans les trains, je mentionnais cette décision du TAF, du Tribunal administratif fédéral, qu'est-ce qu'on peut répondre à Francine? Les CFF ont des solutions?
Alors écoutez, pour les personnes à mobilité réduite, il y a quand même un effort considérable qui est fait pour avoir un accès direct depuis les planchers dites bas au quai qui ont été surélevés. Donc là, la solution, on l'a. Il y a eu un malheureux couac que je n'arrive pas à comprendre, parce qu'il me semble que quand on planifie longtemps à l'avance, ce problème devrait être réglé. C'était l'accès dans les nouveaux trains à deux étages, où malheureusement le restaurant est au premier et on laisse les personnes à mobilité réduite au rez. Donc ça, c'est tout à fait inadmissible. Comme on l'a vu, il est exclu d'envisager des longs trajets pour des personnes à mobilité réduite, soit des personnes âgées. Et là, alors, il faudrait quand même en appeler à de vieux réflexes qui n'ont rien à faire avec le chemin de fer, qui s'appelle simplement la politesse.
Eh bien, c'est intéressant que vous terminiez là-dessus, la politesse, Daniel Mange, parce que je préciserai que nous avons reçu beaucoup d'appels de gens qui ne voulaient pas forcément passer à l'antenne, mais qui dénonçaient beaucoup les incivilités, justement, qui augmentent, notamment dans les trains. Et là, effectivement, on ne peut pas tout imputé non plus au CFF. Daniel Mange, secrétaire de la CITRAP, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir donné beaucoup d'informations et de réponses sur le souci des usagers qui sont nombreux à nous avoir appelés sur cette question des CFF et de la qualité. Je vous souhaite une bonne journée. C'est la fin de ce débat dans Ligne Directe. Il est 8h30. On se retrouve demain. Et avant le journal, un mot avec vous, Jean-Marc Richard, pour Chacun pour tous. Vous cherchez des mentors pour accompagner des immigrés dans leur milieu professionnel ce matin.
Absolument. Bonjour. Il s'agit d'un très beau projet signé par Les Pairs sur 3 ans. L'idée est de vous proposer, dans votre métier, d'accompagner des personnes migrantes qui, elles aussi, ont votre formation, votre qualification, des diplômes qui correspondent à leur pays et qui ont un peu de peine à s'insérer, à s'intégrer dans le milieu professionnel. Vous pouvez les accompagner. Ça représente 5 heures par mois pendant une année approximativement. Si vous voulez vous annoncer en toute simplicité, c'est le 058 236 16 00, 058 236 16 00, comme mentor professionnel. Merci beaucoup.
Merci à vous, Jean-Marc Richard, et excellente journée. Vous écoutez La Première, il est 8h31, le journal. Didier Duployer.
Le président syrien Bachar al-Assad a promis qu'un cessez-le-feu serait instauré dans son pays d'ici le 10 avril. Kofi Annan, l'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe en Syrie, l'a indiqué au Conseil de sécurité des Nations Unies, précisant que Bachar al-Assad lui avait promis que d'ici le 10 avril, donc, le désengagement de ses troupes serait achevé. Une promesse qui a provoqué le scepticisme et la prudence de Washington. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Susan Rice, s'est montrée très prudente en effet. Le Mali est placé sous embargo total par la communauté économique islamique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette communauté, la CDAO, réagit ainsi à la prise du pouvoir d'une junte militaire il y a environ 2 semaines. Elle a également décidé la mise en alerte de sa force militaire dotée de 2000 hommes pour une éventuelle intervention au Mali. Pour la junte au pouvoir à Bamako, l'urgence est de retrouver l'intégralité territoriale du pays. Bamako, où l'on rejoint Aurélie Fontaine.
La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, réunie à Dakar hier, a décidé d'imposer des sanctions économiques et diplomatiques à la junte tant que celle-ci n'aura pas redonné le pouvoir aux civils. Ces sanctions prendront fin quand l'ordre constitutionnel et les institutions seront rétablis, a déclaré Alassane Ouattara, qui préside l'organisation régionale. La CDAO souhaite également qu'une intervention militaire soit rapide. 2000 hommes sont ainsi prêts à intervenir dans le nord du pays. Le chef de la junte a pris acte des décisions de la CDAO et dit rester à la disposition de la médiation burkinabé pour une sortie de crise. Il a également indiqué mettre en place dans les heures à venir une convention avec les forces vives du Mali. Au nord du pays, Tombouctou, tombé dimanche aux mains des rebelles Touareg, est désormais sous contrôle du groupe islamiste Ansardine. Le chef de ce groupe a chassé hier les rebelles Touareg du Mouvement national pour la libération de l'Azawad, qui revendique l'indépendance de cette région désertique du nord du Mali. Aurélie Fontaine, RTS Info, Bamako.
À Fribourg, le projet pilote pour l'accueil de transition à la sortie de l'hôpital pour des patients de plus de 65 ans. Ce projet a été présenté hier. Doté de 19 lits, cette structure basée au home de la Providence de Fribourg va permettre de garantir une transition appropriée entre un séjour à l'hôpital et le retour à domicile ou l'entrée en EMS. Anne-Claude Demière, la directrice de la santé publique, défend les qualités et l'originalité de son projet aux avantages financiers évidents.
Alors le but est aussi de décharger financièrement les structures hospitalières. On est de l'ordre des 400 francs pour une journée ici, alors qu'une journée en soins aigus, on est plutôt de l'ordre de 1000 francs ou de réadaptation selon le type, entre 600 et 800 francs.
Donc économie aussi globale.
Alors économie globale, mais surtout le but de l'hôpital n'est pas d'accueillir des personnes qui n'ont plus besoin de soins hospitaliers. Donc on est vraiment clairement dans le bon patient au bon endroit. Une personne qui sera ici dans cette structure bénéficiera aussi d'un meilleur accompagnement, d'une animation et d'un encadrement de vie qui n'est pas forcément le même à l'hôpital lorsqu'on est en soins aigus par exemple.
Des propos recueillis par Pierre Berset. L'initiative qui vise à instaurer un impôt fédéral sur les successions n'a pas encore été déposée, qu'elle produit déjà des effets. À vrai dire, c'est son effet rétroactif au 1er janvier 2012 qui inquiète au point que sur 80 millions de recettes fiscales supplémentaires l'an dernier, le canton du Valais lui en doit une part significative. Responsable des finances valaisannes, Maurice Tornet l'a souligné en présentant des comptes 2011 très positifs.
Nous avons des recettes fiscales qui ont augmenté de 7%. Environ 30 millions viennent de la Confédération et puis 50 millions viennent du canton du Valais. Et en réalité, sur ces 50 millions, 31,5 millions proviennent de transactions immobilières qui ont engendré des droits de mutation au registre foncier supérieurs à ce que nous avons budgétisé. Ceci est évidemment pour nous une très grande surprise.
C'est donc une initiative qui fait peur aux Valaisans.
Cette initiative qui doit encore être déposée a bien sûr vu les Valaisannes et les Valaisans prendre un certain nombre de mesures pour éventuellement apporter d'ores et déjà une parade à l'acceptation de cette initiative.
Maurice Tornet aux côtés de Claude Desfagots. En hockey sur glace, Berne et Zurich vont se disputer dès ce soir le titre de champion suisse. Le coup d'envoi du premier acte de cette finale qui se joue au meilleur des 7 matchs est prévu à 19h45. Et puis autre finale, celle qui met aux prises Ambri Piotta à Langenthal. Les Tessinois qui entendent bien sauver leur place en Ligue A et les Bernois qui veulent rejoindre l'élite là où également le coup d'envoi est prévu à 19h45. La météo, des nuages aujourd'hui avec des averses qui deviendront fréquentes cet après-midi et il fera 18 degrés en pleine. Demain, le ciel sera encore nuageux avec des précipitations qui se feront plus rares.
Et on espère le soleil pour Pâques. Merci beaucoup Didier Duployé.